Europe 1.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddei.
Bonjour, bon week-end. Patrice Duhamel a connu presque tous les présidents de la République et premiers ministres de la 5e. Il consacre un livre à leur rapport tumultueux. On va voir ce qu'ils pensent du nouveau duo de choc composé par Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Et j'ai demandé à Jean-Dominique Mercher de revenir. Il était là la semaine dernière pour son livre « Sommes-nous prêts pour la guerre ?». Mais depuis, Donald Trump a fait des déclarations qui ont plongé tous les pays européens de l'OTAN dans la panique. On va voir ce qu'il a dit exactement. Et l'on terminera l'émission avec Bruno Angle qui publie un livre sur le temps et ses mystères. Europe 1. Patrice Duhamel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été reporter sur le terrain, journaliste politique, rédacteur en chef, puis directeur de l'information, directeur général de Radio France, puis de France Télévisions. À l'exception du général de Gaulle, vous avez connu tous nos présidents de la République et leurs premiers ministres, et vous consacrez tout un livre à leur rapport complexe, souvent soupçonneux, parfois explosif. Vous l'avez intitulé « Le chat et le renard ». Pourquoi le chat et le renard est entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal, dont vous ne parlez pas dans le livre Qui est le chat et qui est le renard?
Je pense que Emmanuel Macron est à la fois le chat et le renard. J'ai choisi ce titre pour le livre parce que chaque couple dont je parle, j'ai choisi une femme de La Fontaine. Et je trouve que celle-là était assez bien adaptée à l'idée qu'on se fait d'un couple président-premier ministre. Et j'en conclus, s'agissant des présidents, pas de tous les premiers ministres, loin de là, qu'ils sont à la fois chat et renard, c'est-à-dire la souplesse du félin, et puis la ruse et la flatterie du renard, surtout la flatterie d'ailleurs, plus encore que la ruse. Et Attal, c'est un petit peu tôt, je dirais pour l'instant, je pense plutôt le chat que le renard.
Il y a pour vous une sorte de fatalité, voire de malédiction, qui veut que le président et le premier ministre, ou la première ministre, finissent par s'opposer. Vous dites avoir vu entre eux, selon les circonstances, de la défiance, du mépris, de la cruauté, de la jalousie, de la fureur et même de la haine. Comment vous l'expliquez ?
Je l'explique par la personnalité des hommes et des femmes, tout simplement. Je l'explique par la forme de nos institutions. Je l'explique par les entourages. Ça date du 13e, 14e et 15e siècle, etc., mais joue toujours un rôle absolument majeur, notamment dans les relations entre l'Élysée et Matignon, entre les deux centres de pouvoir. Je l'explique aussi par les médias, qui aiment bien attiser un peu les choses entre les deux têtes de l'exécutif et qui préfèrent que ça se passe mal plutôt que ça se passe bien. C'est un grand classique.
Vous parlez d'exaspération entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe et de froideur entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Pourquoi cette exaspération avec Édouard Philippe et s'il en était là, à quoi faut-il s'attendre avec Gabriel
Alors,
Attal
exaspération pour Édouard Philippe, pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps, notamment à partir de la crise du Covid, pour deux raisons. L'une absolument majeure, qui est le grand sujet de la Ve République, même en période de cohabitation, c'est la différence entre présider et gouverner, qui est d'ailleurs une des théories d'Édouard Philippe, dans le livre qu'il a écrit après avoir quitté Matignon. Il considère que le président doit présider et que le gouvernement doit gouverner. Et ça se passe très rarement comme ça. Et la deuxième chose, c'est que il y a eu des frictions entre les deux hommes qui ont fait que ça aboutit à la fin, à une vraie exaspération. Alors, il y a notamment le fait que Édouard Philippe était très populaire et beaucoup plus populaire à la fin que Emmanuel Macron. Je suis pas sûr que ça soit un élément majeur parce que là, on rentre dans des critères psychologiques et puis il y a toujours des moments où les présidents sont plus ou moins populaires. Mais enfin, c'est sûr qu'à la fin, ils ne s'entendaient plus du tout, quoi. Voilà. C'est pas la première fois, hein. Il y en a qui se sont mutuellement exaspérés dès les premiers jours. Moi, j'ai vécu quasiment au quotidien Giscard-Chirac. Ils se sont exaspérés au bout de 8 jours.
Oui, oui, on y reviendra parce que c'est un cas intéressant. Mais c'est vrai qu'entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, ils semblaient très bien aller ensemble.
Oui.
Autant Elisabeth Borne, on imagine bien, oui, vous parlez de froideur, on se dit ils ne font pas partie du même monde, peut-être. Mais avec Édouard Philippe, ils allaient très bien ensemble, un peu comme Nicolas Sarkozy et François Fillon, d'ailleurs. Il y avait quelque chose d'évident et de naturel au départ. Et le président Sarkozy conservera...
Pendant 5 ans. François, oui, il a envisagé Fillon quand même de le remplacer au bout de 3 ans, mais il l'a gardé.
Il l'a gardé.
Il l'a gardé parce que François Fillon avait... l'avantage, avait obtenu une forme d'approbation permanente et de soutien très fort de sa majorité parlementaire. Et donc, ça permettait à Nicolas Sarkozy de ne pas avoir à traiter ce sujet-là. Ça le libérait d'un gros problème.
Mais en même temps, vous dites qu'il y avait des tas de problèmes entre les deux. Ils ne pouvaient plus supporter non plus.
Ils ne s'entendaient pas du tout. Assez rapidement, le jour où François Fillon a dit, c'était en Corse, je suis à la tête d'un État en faillite.
Oui, ce n'est pas en faillite qu'on lui a reproché.
Non, c'est le « je suis à la tête », voilà.
À la tête de l'État.
Et quand Nicolas Sarkozy dit que François Fillon est un collaborateur, il le dit dans un déjeuner privé avec des journalistes, mais c'est le fond de sa pensée. Moi, je l'ai interviewé plusieurs fois, j'en ai parlé souvent. Il considère que le président est élu, que le Premier ministre est nommé, donc en gros, il n'y a pas photo.
Mais il a
le
raison,
patron, voilà.
C'est lui qui a nommé son Premier ministre, voilà. il peut le renvoyer quand il veut, donc c'est un collaborateur.
Ouais, et il disait, on me reproche d'être omniprésident, mais je regrette de ne pas l'avoir été encore plus.
Vous parlez de Claude Guéant, qui était le secrétaire général de l'Élysée à ce moment-là. Et vous dites que ça a joué beaucoup dans les problèmes qu'ont pu rencontrer Nicolas Sarkozy et François Fillon.
Parce que pour la première fois sous la Ve République, il y a eu des secrétaires généraux. C'est une fonction éminente.
Stratégique.
Absolument stratégique. En gros, tout passe par le secrétaire général de l'Élysée. Et pas seulement ce qui arrive dans le bureau du président de la République, mais tous les sujets en général. Et pour la première fois sous la Ve République, le secrétaire général, avec le feu vert du Nicolas Sarkozy d'ailleurs, a beaucoup parlé dans les médias, a théorisé, a fait des choix entre tel et tel, a fixé des priorités, a parlé souvent à la place de ministre. Et quand il avait été question de remplacer François Fillon par Jean-Louis Borloo, il avait fait une grande interview en expliquant quelles étaient les qualités et les défauts des deux. C'était totalement inédit. Et ça, François Fillon l'avait très mal supporté.
Ce serait un bon livre à faire, un livre sur les rapports entre les présidents de la République et les secrétaires généraux de l'Élysée. Vous pourriez faire ça, parce qu'Alexis Kohler est le 21e, je crois, secrétaire général de l'Élysée. Il est là depuis 7 ans, et c'est vrai, c'est la tour de contrôle.
On dit même qu'il est vice-président, président
voilà,
bis.
On a des tas de fantasmes sur cette profession, c'est un bon livre à faire.
C'est au-delà d'une tour de contrôle, le secrétaire. Et il y a eu des très grands secrétaires généraux. Il y a eu Dominique de Villepin, il y a eu Édouard Balladur, il y a eu Pierre Bérégovoy.
Hubert Védrine, etc.
Absolument, jamais de femme.
On fait une pause, Patrice Duhamel, on y revient tout de suite après.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï. Nous sommes ce matin avec Patrice Duhamel qui publie Le chat et le renard sur tous les couples exécutifs, comme vous les appelez, ils ont été 25 qui se sont succédés, président et premier ministre à la tête du pays. On se souvient tous, tous ceux qui étaient nés, vous en parliez il y a un instant, du couple, alors lui, explosif, entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux aussi? Ils avaient tout pour s'entendre au départ, comme Emmanuel Macron et Édouard Philippe, comme Emmanuel Macron et Gabriel Attal aujourd'hui. Ils étaient jeunes, ils étaient modernes. Qu'est-ce qu'il y a eu?
Alors, il y a eu une forme d'incompatibilité d'humeur très vite, un choc de caractère. C'était très spectaculaire. Il y a eu le fait que c'était d'ailleurs une mauvaise règle qui a existé pour beaucoup de couples exécutifs, c'est qu'ils ne se sont pas parlé avant la nomination de Jacques Chirac de qui allait faire quoi, de quelle était la répartition des rôles. Que Jacques Chirac avait comme père spirituel Georges Pompidou, président de la République, qui venait de décéder quelques semaines plus tôt. Et puis, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels Jacques Chirac en considérait que lui se prétendait gaulliste, donc défendant une certaine ligne, et qui considérait que Giscard, qui lui avait fait une campagne de centre, n'était pas totalement dans cette ligne. Mais ce qui m'a vraiment très impressionné à ce moment-là, c'est que c'est arrivé, ces désaccords de fond sont intervenus au bout de 10 jours. La formation du gouvernement, il y a un moment où Giscard dit « je voudrais X », c'était Françoise Giroud, l'ancienne patronne de l'Express, qui Giscard voulait la faire rentrer la condition féminine au gouvernement. Chirac a dit pas question. Si vous la mettez, je m'en vais.
Ce qui était criant tout de même, même pour un jeune adolescent comme moi à l'époque, c'était l'ambition personnelle de Jacques Chirac. Et c'était quand même la montagne au milieu du salon.
J'allais y venir. Les couples exécutifs, quand le Premier ministre a une ambition présidentielle, soit au début, soit au milieu, soit à la fin de sa présence à Matignon, ça dérape. Il n'y a pas un exemple où ça n'a pas dérapé. Et le premier exemple, c'est Georges Pompidou avec Charles de Gaulle. Et sur Chirac, ça a été notoire 3, 4, maximum 6 mois après son arrivée. Et la fin était, je crois que c'est dans le livre, je qualifie de shakespearienne. C'était extraordinaire.
Et entre Mitterrand et Rocard, pourquoi tant de haine? Mitterrand ne l'a jamais supporté. Alors on peut imaginer que parce qu'il était son seul rival au sein du Parti Socialiste et qu'à plusieurs reprises, alors une fois il s'était déjà présenté à la présidentielle, mais il comptait bien le faire, même en 80. À un moment, il a fallu que Mitterrand annonce sa candidature pour que Rocard retire la sienne.
Mitterrand avait une obsession, c'est que ça ne soit pas la deuxième gauche qui lui succède, la gauche moderne. La gauche rocardienne, la gauche à la mode, la gauche très en forme dans les sondages, la gauche séduisante. Et Mitterrand le nomme en 88, après avoir été réélu et après une victoire assez étriquée, avec une petite majorité relative, beaucoup plus petite qu'aujourd'hui, aux législatives qui ont suivi. Et on a su assez vite qu'il le nommait là pour le tuer politiquement. Il a d'ailleurs parfaitement réussi. Mais le jour où Mitterrand nomme Rocard, il dit à ses conseillers, à quelques visiteurs, et même à des journalistes qu'il reçoit le jour même, vous allez voir, je le nomme là parce que les Français veulent que je nomme, et bien allons-y. Mais il va complètement passer à travers, il n'a pas le niveau. Et d'ailleurs, il y avait autre chose qui frappait beaucoup Mitterrand, c'est qu'il ne comprenait pas ce que disait Rocard.
Oui,
moi, j'aimais beaucoup Rocard. Et c'était assez fulgurant. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où ces fulgurants, ce n'était pas toujours d'une grande clarté. Et Mitterrand, ça l'exaspérait absolument. Et puis l'idée d'avoir ce jeune successeur en face de lui, c'était insupportable. Et le jour où il le licencie, parce que c'est un licenciement, ça dure moins de 5 minutes. C'était d'une froideur et d'une brutalité, Michel Rocard lui-même l'a raconté dans des souvenirs, absolument incroyable. Il lui a dit, bon bah très bien, bonjour monsieur le Premier ministre, je vous remercie de m'envoyer votre lettre de démission en début d'après-midi, au revoir monsieur le Premier ministre. C'était quelque chose d'inouï.
C'est souvent, on voit bien que ça commence à se passer mal après une élection intermédiaire qui a été perdue. On peut se dire qu'entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, il faut être vigilant sur les résultats des européennes.
Oui, alors,
si ça se passe mal, ça peut aller très mal entre eux, vous pensez ?
Alors, c'est un couple totalement atypique. J'ai cherché une femme pour la prochaine édition du livre, et j'en ai trouvé une qui, je crois, correspond assez bien. C'est le berger et le roi. Le roi, c'est le président. Le berger, c'est le Premier ministre. C'est une femme sur mélange ambition, jalousie, etc. L'ambition, c'est celle d'Attal. Bien entendu aussi celle de Macron sur l'image, la trace, la marque qu'il veut laisser dans l'histoire politique. Attal est totalement nouveau, manque quand même d'expérience. Il a fait un passage au budget et à l'éducation nationale, mais il n'a pas une expérience très longue. Deuxièmement, pour la première fois, le président ne peut pas se représenter. Et troisièmement, pour la première fois, il y a une majorité qui est ultra relative. C'est énorme, 40 voix qui manquent, on l'a vu, sur l'immigration, les retraites, etc. etc. Donc, ils essaient de trouver leur marque. Moi, je trouve que ça n'a pas très bien démarré avec la conférence de presse du président avant le discours de politique générale de Gabriel Attal. Je pense que Gabriel Attal fait trop référence de manière un petit peu très obéissant vis-à-vis du président. Il le cite sans interruption, etc. Un couple exécutif fonctionne bien quand le Premier ministre a de l'autorité sur son gouvernement. Et quand cette image d'autorité est ressentie par le pays, et pour avoir de l'autorité, il faut qu'il ait de la marge de manœuvre. Est-ce qu'il aura la marge de manœuvre suffisante ? Il semble qu'il y ait une prise de conscience réciproque qui soit dans une réflexion sur comment on fait, qui fait quoi, que Attal ferait plus de terrain, que Macron ferait des choses un peu plus discrètes, comme il a fait il y a quelques jours en allant voir des agriculteurs sans qu'il y ait micro et caméra, et qu'il prendrait un petit peu de hauteur. On va voir comment les choses se mettent en place. Mais là où vous avez parfaitement raison, c'est que il n'y a pas de chef de file de la liste macronienne aux européennes, ce qui est assez étrange puisqu'on est quasiment à 100 jours de l'élection. Alors, deux raisons. D'abord, je pense qu'ils ont du mal à trouver quelqu'un. Et deuxièmement, Attal, dans son discours de politique générale, a lancé une attaque très forte sur l'extrême droite et notamment sur sa conception, sa stratégie européenne de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Donc, le vrai chef de file, ça sera Gabriel Attal. Aujourd'hui, dans les sondages, il y a une dizaine de points d'écart. Si ça se maintient à ce niveau-là, qui est quand même très, 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 très large, ça serait un véritable échec pour l'exécutif. Si, en revanche, cet écart se réduit, ça sera un très bon point pour Attal. Ça pourrait être une forme de rampe de lancement. Et moi, je suis convaincu que il y a plusieurs raisons quand on nomme un Premier ministre. Mais dans ces différentes raisons, du choix de Gabriel Attal, il y a le fait qu'il préférerait Macron l'avoir comme successeur plutôt qu'Édouard Philippe. Ça, c'est une évidence.
Ou que Marine Le Pen.
Ah oui, mais ça, Marine Le Pen, c'est encore plus évident.
Merci, Patrice Duhamel. Le chat et le renard, ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Et maintenant, on a rendez-vous avec Jean-Dominique Mercher. On va voir ce qu'il pense des déclarations de Donald Trump à propos des pays de l'OTAN.
C'est arrivé cette semaine sur Europe 1. Europe 1. C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï. Jean-Dominique Mercher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'Opinion et l'un des meilleurs spécialistes des questions de défense internationale. Je vous ai reçu la semaine dernière pour votre livre « Sommes-nous prêts pour la guerre ?», sous-titré « L'illusion de la puissance française » qui vient de paraître chez Robert Laffont. Mais il se trouve que depuis, Donald Trump a tenu un meeting électoral en Caroline du Sud et que ses déclarations ont créé un vent de panique en Europe parmi les pays de l'OTAN. Il a dit qu'il ne protégerait pas ses alliés s'ils étaient des mauvais payeurs. En fait, a-t-il dit, il en encouragerait même les Russes à faire ce que bon leur semble. La phrase a été reprise dans tous les journaux, d'autant plus qu'on a appris hier la mort en prison d'Alexeï Navalny, l'opposant numéro un à Vladimir Poutine. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Donald Trump, exactement ?
Oui, alors les déclarations de Donald Trump, toujours très tonitruantes, ont semé une grande panique, en Europe notamment. Mais si on l'écoute bien, il faut quand même un peu nuancer ce qu'il dit d'un certain point de vue. Parce que, en fait, il racontait une scène qui s'était passée lorsqu'il était président, lors d'un sommet de l'OTAN, où il avait discuté avec un président ou un chef d'État ou de gouvernement qu'il ne cite pas, en lui disant « Écoute, si tu ne payes pas ce que tu dois payer, c'est-à-dire 2% de ton produit intérieur brut pour la défense, ça c'est un engagement au sein de l'OTAN, ne compte pas sur les États-Unis pour venir te défendre, et même, aurait-il dit, donc, que Poutine t'envahisse. » Donc, il faisait référence à quelque chose du passé. Ce n'est pas quelque chose qu'il disait d'aujourd'hui, mais le simple fait de le répéter, effectivement, était plutôt angoissant. D'autant que ça arrive dans un contexte où les élus républicains trumpistes au Congrès américain bloquent toujours l'aide à l'Ukraine et où un trumpiste en chef, Carlson Tucker, est allé interviewer Vladimir Poutine à Moscou de manière assez complaisante. Donc tout ça crée un contexte qui effectivement suscite beaucoup d'inquiétudes de ce côté-ci de l'Atlantique.
Il a fait en effet allusion à sa première participation au sommet de l'OTAN, c'était en 2018, et il avait répondu à un dirigeant, on pense que c'est Angela Merkel. Hein.
Avec laquelle les relations n'étaient pas très bonnes, voilà. Il faut le dire. Voilà.
Et il avait dit qu'il encouragerait même l'ennemi, il n'avait pas dit la Russie, mais c'était sous-entendu, à l'attaquer si elle ne remplissait pas ses obligations financières. Ouais. Et alors, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça avait marché quand même, parce que les Européens ont commencé à payer la facture, comme dit Trump. Hein. L'argent a afflué... dit-il, des milliards de dollars ont été injectés dans l'OTAN. J'ai réussi là où mes prédécesseurs avaient échoué, a-t-il dit la semaine dernière en Caroline du Sud. Ce n'était donc pas une promesse en cas de réélection, comme on l'a dit, mais le récit d'une victoire, une de plus à son actif.
Alors, comme toujours, il tire la couverture à lui. Il faut faire un petit peu d'histoire. En 2014, avant l'élection de Trump, sous la présidence Obama, il y a un grand sommet de l'OTAN juste après l'invasion de la Crimée et le début de la guerre dans le Donbass. Et là, les alliés, à la demande des Américains, se mettent d'accord pour dire 2% du produit intérieur brut pour la défense, 2014. Tous les présidents américains, depuis Eisenhower, ne cessent de répéter la même chose aux Européens, payez plus pour votre défense qui est en grande partie financée par le contribuable américain. Ce que fait Trump, c'est qu'il le fait de à la manière de Trump, c'est-à-dire sans beaucoup d'élégance et de manière assez directe. Il faut dire que ça n'a pas si mal marché. On a appris cette semaine que 10 ans après le sommet au cours duquel donc les pays s'étaient engagés à dépenser 2% de leur PIB pour la défense, la France a enfin atteint ce seuil. Il aura fallu 10 ans. Et c'est vrai que d'autres pays sont allés plus vite, notamment dans les pays de l'Est, la Pologne en est un exemple parfait. D'autres sont toujours en dessous. L'Allemagne n'est toujours pas à 2%. Elle va y aller, sans doute vraisemblablement, mais d'autres pays importants d'Europe, comme l'Italie ou l'Espagne, en sont très très loin. Donc la pression américaine, à la manière Trump, ou à la manière Obama, ou à la manière Biden, ou à la manière Clinton avant, etc., etc., elle commence à porter ses fruits parce que les Européens ont peur d'être lâchés par les États-Unis.
En fait, on s'aperçoit que tous les pays européens qui ont une frontière commune avec la Russie, la Pologne, les Pays-Baltes, la Finlande, dépensent déjà plus de 2% de leur PIB dans leur défense. Et effectivement, vous l'avez dit, en 2024, ils ne seront que 18 sur 31. Les autres sont tous en dessous. Toutefois, ce qu'a dit Donald Trump, et on peut penser qu'il le pense toujours, ça remet en cause le principe de solidarité entre les alliés de l'OTAN.
Alors ça peut remettre en cause le principe de solidarité entre alliés, le fameux article 5 de la charte du traité de l'Atlantique Nord, qui prévoit que effectivement en cas d'agression d'un allié, les autres alliés doivent se porter à son secours. Mais, et là c'est un mais important, lorsque ce traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'OTAN en fait, a été créé en 1949, les Américains ont exigé quelque chose. Ils ont exigé de garder la liberté d'intervenir de la manière dont ils le souhaitaient. C'est pour ça qu'il est dit dans le traité, par tous les moyens qu'ils jugeront nécessaires, y compris militaires. Pourquoi ils font ça? Parce que les États-Unis sont un pays totalement souverainiste, où il n'y a que le Congrès qui a le droit de décider de l'entrée en guerre des États-Unis contre un autre pays. Et pas un traité international. Donc les États-Unis, dès 1949, disent aux Européens « Ok, nous viendrons à votre secours » parce qu'ils n'ont pas envie de recommencer les erreurs énormes qu'ils avaient commises après la Première Guerre mondiale, erreurs qui ont entraîné la Seconde Guerre mondiale. Mais ils veulent garder leur liberté. Et donc l'article 5, effectivement, est une garantie. Mais c'est quand même une garantie à géométrie variable. En dernier ressort, c'est quand même le président et le Congrès des États-Unis qui décideraient de la nature de la réponse.
Voilà de quoi faire réfléchir les pays de l'OTAN. On fait une pause, Jean-Marc Dominique Mercher, et on y revient tout de suite après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Tadéhi. Nous sommes avec Jean-Dominique Mercher, l'auteur de « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» aux éditions Robert Laffont. La semaine dernière, quand vous êtes venu parler de ce livre, avant donc la déclaration de Donald Trump qu'on est en train de commenter, vous nous aviez dit que tous les pays de l'Union européenne, membres de l'OTAN, n'avaient qu'une idée. Au fond, c'était se réfugier sous le parapluie nucléaire américain, ce qui les différencie de la France, qui, elle, rêve depuis longtemps d'une défense européenne commune.
Absolument. Mais il faut là encore repartir un peu dans l'histoire. Tous les pays européens, à l'exception de la France et de la Grande-Bretagne, n'ont pas le droit de posséder l'arme nucléaire parce qu'ils ont signé un traité nous aussi, nous l'avons signé d'ailleurs, le traité de non-prolifération nucléaire qui date de 1968, le TNP. Et ce traité fige la situation. Il dit que certains États ont le droit d'avoir l'arme nucléaire et d'autres renoncent à avoir l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, c'est la garantie ultime de votre sécurité et de votre défense. Donc, lorsque vous avez signé un traité qui vous interdit de vous protéger par vos propres armes nucléaires, vous êtes d'une certaine manière contraint de vous réfugier sous le parapluie d'une autre arme nucléaire, d'un autre pays. Et c'est ce que tous les Européens font en se réfugiant sous le parapluie nucléaire américain, puisque l'Allemagne, par exemple, n'a pas le droit, elle n'en a sans doute pas le désir, mais même si elle en avait le désir aujourd'hui, elle n'aurait pas le droit de se doter d'une arme nucléaire. Donc, elle est contrainte, pour garantir sa sécurité en dernier ressort, de faire appel à l'Alliance Atlantique, aux États-Unis, et donc à la garantie nucléaire américaine.
Mais l'Allemagne, par exemple, pousse le bouchon un peu loin, parce que les Allemands, aujourd'hui, ne comptent plus, je crois, que 200 chars, dont la moitié seulement serait réellement opérationnelle. Quand on sait combien la Russie en a perdu en 2 ans de guerre, pas loin de 3000, je crois, on se dit que c'est comme si elle n'avait rien. Donc, en fait, elle se remet complètement sous le parapluie nucléaire américain. Les Anglais, d'ailleurs, c'est pas loin d'être la même chose. Hein, je crois qu'ils n'ont plus que 200 chars non plus. Donc, eux aussi, si au fond remettent en cause le principe de solidarité entre les alliés de l'OTAN puisqu'ils ne respectent pas leurs obligations, vous l'avez dit, l'obligation...
Les Allemands sont en dessous, oui.
Voilà, c'est 2% de son PIB consacré à la défense, et quand on ne les dépense pas, bah, à la fin on n'a plus rien, on n'a pas de char, on n'a pas de drone, on n'a rien.
Il faut bien comprendre quelque chose, l'Allemagne depuis 30 ans a décidé de désinvestir de sa défense, en consacrant un pourcentage faible, 1%, 1,5% de son produit intérieur brut à la défense. Elle a d'abord dû, ne l'oublions pas, financer, et ça a été absolument considérable, sa réunification. Et ça, ça a été un coût monstrueux pour l'Allemagne fédérale de financer la reconstruction de l'Est. Puis, elle a eu des règles budgétaires extrêmement strictes qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne est un pays beaucoup moins endetté que la France. Mais ça, ça a une conséquence. La conséquence, c'est qu'il y a eu peu d'investissements. Il y a eu peu d'investissements dans le domaine militaire, d'où l'état absolument déplorable de la Bundeswehr, l'armée allemande, qui d'ailleurs, en plus, est une grosse structure bureaucratique très lourde, qui fonctionne très mal. Mais c'est également le cas dans d'autres domaines. Par exemple, les transports, les chemins de fer en Allemagne sont dans un état de déliquescence bien plus avancé qu'on l'imagine souvent en France, parce qu'il n'y a pas eu d'investissement public durant toutes ces années pour respecter les règles de l'orthodoxie budgétaire. Donc l'Allemagne a l'avantage de ne pas être endettée, mais elle a l'inconvénient de ne pas avoir dépensé de l'argent pour sa défense ou pour ses infrastructures.
C'est pour ça que je rappelais le sous-titre de votre livre, Jean-Dominique Mercher, « L'illusion de la puissance française ». Mais est-ce qu'on ne pourrait pas en écrire un autre, je vous y invite, « L'illusion de la puissance de l'OTAN ».
Oui, peut-être, mais au final, quand même, l'OTAN repose sur la détermination des États-Unis, l'alliance avec les États-Unis et le parapluie. Et les États-Unis restent quand même une puissance militaire absolument considérable, la première du monde sans conteste. Donc, si vous voulez, la question de l'illusion de l'OTAN, c'est celle de la solidité des liens entre les deux rives de l'Atlantique. Les Européens sont très attachés à maintenir ses liens avec les États-Unis. Est-ce que les États-Unis seront toujours aussi attachés à avoir un pied important en Europe? C'est la grosse question. On voit bien qu'il y a des courants isolationnistes qui pensent qu'il faut privilégier les dépenses sur le sol américain, pour le public américain, et d'autres qui considèrent, quasiment d'ailleurs tous les Américains, considèrent que la menace principale aujourd'hui, la menace militaire, économique, stratégique principale, c'est la Chine, et ils se retrouvent obligés, d'une certaine manière, d'intervenir en Europe, avec la crise, avec la guerre en Ukraine, et d'intervenir au Proche-Orient ou au Moyen-Orient avec ce qui se passe à Gaza et les menaces iraniennes. Mais c'est pas leur choix, en fait. C'est plutôt la contrainte stratégique dans laquelle ils sont.
et Donald Trump s'il est réélu à la fin de l'année 2024? Est-ce que c'est un vrai isolationniste, lui? Est-ce qu'il fait semblant? Est-ce qu'il dit n'importe quoi? Ça lui est arrivé parfois?
Tout le monde pense que s'il arrive, ce sera une catastrophe absolue. En fait, on n'en sait rien. Donald Trump, c'est quelqu'un qui veut faire des deals, des accords. Et donc, il pense qu'il est capable de régler tous les problèmes par son propre génie politique. Et donc, il est effectivement peut-être capable de débarquer à Moscou et de dire à Poutine, bon ben voilà, écoute, maintenant, tu peux pas gagner la guerre en Ukraine, tu peux pas la perdre, il va falloir qu'on trouve un accord. Bon, voilà. Donc, le jeu est sans doute beaucoup plus ouvert, lié à sa personnalité un peu baroque, qu'on ne le croit. Les tendances lourdes sont quand même là. Il y a quand même un fort isolationnisme, un fort nationalisme qu'on voit s'exprimer au sein du Parti républicain, qui est absolument contre le soutien à l'Ukraine, mais paradoxalement qui est pour faire la guerre à l'Iran. Donc... voilà, ce serait clairement une élection, une réélection de Donald Trump nous ferait rentrer la communauté internationale au sens large et l'Europe en particulier dans une zone de danger. Mais bon, on ne peut pas écrire l'histoire dès aujourd'hui.
Merci Jean-Dominique Mercier. Sommes-nous prêts pour la guerre?
Merci à vous surtout.
C'est paru chez Robert Laffont. Et on a un rendez-vous dans un instant, après une pause, avec Bruno Angle, qui publie un livre sur les mystères du temps.
Europe 1. Europe 1. C'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bruno Angle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées. Vous avez été à la tête de grandes entreprises comme Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc, Vinci Énergie ou Crédit Suisse en France et en Belgique. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général d'AG2R, la mondiale, qui assure 15 millions de Français et plus de 500 000 entreprises. Et vous publiez de temps en temps un livre sur le temps. C'est étrange, on a fait beaucoup de progrès dans beaucoup de domaines, mais le temps reste toujours aussi mystérieux. Pourquoi?
C'est vrai qu'on sait mesurer le temps, mais on s'interroge toujours sur sa nature profonde. Et c'est pour ça que dans ce livre, de temps en temps, j'ai essayé d'abord, dans la première partie, d'appréhender cette nature profonde du temps en prenant différentes perspectives. Une perspective d'astrophysique, et ça c'est l'ingénieur probablement qui parle, mais également des perspectives philosophiques. Beaucoup de grands philosophes ont écrit sur le temps. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, on s'interroge un peu sur les rapports entre le temps et l'argent, le temps et le pouvoir, avant, dans une troisième partie, d'arriver sur du plus concret. Et au fond, la troisième partie cherche à répondre à une question simple qui est comment bien gérer son temps pour choisir sa vie et construire son bonheur.
Mais le temps est un trésor d'autant plus précieux qu'il est rare et limité, du moins tant qu'on n'aura pas vaincu la mort, ce qu'on essaye
absolument
de faire depuis toujours.
Absolument. Alors on a effectivement deux ressources rares dans la vie. On a le temps et l'argent. Et moi ce qui me fascine, c'est que le temps en fait est une ressource beaucoup plus égalitaire que l'argent. Si on prend le patrimoine moyen des Français et qu'on le compare à celui de l'homme le plus riche de France, il y a un facteur de 1 à 1 million. Pour le temps, si on prend Gavroche qui meurt sur les barricades à 12 ans et Jeanne Calment qui meurt à un peu plus de 120 ans, on a évidemment une différence, mais c'est un facteur 10. Donc entre 1 à 1 million et 1 à 10, on n'est pas du tout dans la même, dans le même type de rapport. Et du coup, cette ressource égalitaire, de mon point de vue, nous donne à chacun d'entre nous à la fois une très très grande liberté, mais également une très très grande responsabilité pour faire le meilleur usage possible du temps qui nous est donné.
Mais Bruno Angle, vous parlez de Jeanne Calment qui a été la doyenne de l'humanité. On se dit, c'est extraordinaire, Jeanne Calment a 50 ans, vous vous rendez compte, quand elle marie sa fille, il lui reste encore 73 ans à vivre. Le problème, c'est qu'elle ne le sait pas, Jeanne Calment, qu'il lui reste 73 ans à vivre. Elle vit comme vous et moi, au jour le jour, en croyant qu'elle a déjà vécu la plus grande partie de sa vie et qu'il ne lui reste peu de temps.
C'est vrai, et alors, il y a une chanson d'Étienne Dao que j'aime bien, qui est « Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie », ce qui veut dire que même si
la
on a fait...
La phrase n'est pas d'Étienne Dao.
Hein. Oui, il l'a reprise, bien sûr. Et il y a un film, d'ailleurs, qui reprend la même phrase. Mais au fond, je trouve que c'est une phrase assez juste et qui nous renvoie à cette ardente obligation de bien gérer son temps. Parce que le passé, c'est le passé, mais à partir d'aujourd'hui, vous et moi, on peut décider d'utiliser notre temps d'une façon différente de celle qu'on a décidé de faire jusqu'à présent.
Mais est-ce que l'allongement de la durée de la vie a modifié notre perception du temps ?
Sans doute pas complètement, pour la raison que vous indiquiez il y a deux minutes, qui est qu'on ne sait pas de combien de temps on dispose encore. Et d'ailleurs, si on savait exactement, ce serait sans doute une perspective assez terrifiante.
Oui, il vaut mieux pas savoir. Quand on est enfant, le temps passe plus lentement. C'est normal, quand on a 4 ans, une année de maternelle représente un quart de notre existence. Ça semble être interminable. Mais quand on a 64 ans, le nouvel âge légal de départ à la retraite, est-ce qu'une année passe 16 fois plus vite qu'à 4 ans pour la bonne raison que dans 64 ans, il y a 16 fois 4 ans.
Alors, je ne sais pas si on peut être dans une formulation aussi mathématique de cette évolution, mais oui, incontestablement, ça passe plus vite, précisément parce que même si on ne sait pas exactement de combien de temps on dispose encore, on sait confusément qu'on dispose de moins de temps que quand on avait 4 ans. Et donc, effectivement, ça change notre rapport au temps. Et en même temps, on voit bien qu'un certain nombre de gens, en partie parce qu'ils passent dans une autre étape de la vie qu'est la retraite, décident de faire un usage radicalement différent de leur temps quand ils ont 64 ans et un peu plus.
On pense que le temps est infini, mais est-ce qu'il a commencé quelque part ?
Alors ça, c'est un des grands mystères. C'est ce que j'appelle le jour sans hier dans le livre, qui est l'expression d'ailleurs n'est pas de moi, elle est d'un disciple de Stephen Hawking. Mais on ne sait pas vraiment. On pense plutôt que oui, on pense plutôt qu'il a commencé au moment du Big Bang. Mais le Big Bang, si on rentre un peu dans les théories astrophysiques, ça n'est qu'une extrapolation de ce qui est observable. Et on sait bien que le tout commencement, on ne sait pas l'observer. Bon, donc on pense plutôt que oui, mais la vraie question, c'est s'il y a eu un Big Bang, est-ce qu'il y aura un Big Crunch ? Autrement dit, est-ce que pour l'instant, on sait que l'univers est en expansion ? Ça, je crois que c'est à peu près acquis, notamment grâce aux travaux de Stephen Hawking. Est-ce qu'un jour, il passera en contraction ? C'est une première question. Et la deuxième question, c'est sur l'univers que nous connaissons. Mais il y a une autre question que j'aborde dans le livre, qui est-ce qu'il y a un seul univers ou est-ce qu'on est dans un multivers dont nous ne serions qu'un des univers ?
Avec des durées de temps différentes.
Avec potentiellement des durées de temps différentes, ce qui renvoie à la question de qui est le maître ultime des horloges.
Depuis le début des années 2000, tout le monde se plaint d'avoir moins de temps qu'avant. Vous avez remarqué ça ? C'est parce qu'on vieillit ou parce qu'on fait plus de choses en même temps ? Grâce notamment aux outils informatiques dont nous disposons.
Alors je pense qu'effectivement, les téléphones portables, et moi-même je suis totalement victime de cette nouvelle donne dans le rapport au temps, font qu'on est très souvent dans ce que les Anglais appellent le multitasking, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs choses à la fois, on est à la fois en train de regarder une émission et de répondre à un message. Et ça, effectivement, ça induit une fragmentation du temps, ce qui fait que les Anglais ont inventé ce concept du quality time, c'est-à-dire du temps de qualité, c'est-à-dire un temps où on est sur une seule tâche et où on est totalement concentré sur cette seule tâche. Et on voit qu'effectivement, dans nos vies, et notamment quand on est très actif dans la vie professionnelle, il est de plus en plus difficile de dégager du quality time. Mais du coup, la valeur de ce quality time, de mon point de vue, augmente encore.
Alors, on est assez nostalgique de nos jours, notamment en France. On pense que c'était mieux avant. Est-ce qu'on peut remonter le temps ?
Alors là aussi, c'est une des grandes interrogations. J'ai été amené au fil de mes travaux, quand j'ai écrit le livre, à creuser un peu plus profondément l'œuvre d'un grand cinéaste qui est Christopher Nolan. Et Christopher Nolan a au moins trois films dans lesquels il parle du temps. Il y a Interstellar, il y a Tenet et il y a Inception. Et alors... Inception, c'est le temps qui s'écoule à une vitesse différente dans le rêve.
C'est un film avec Leonardo DiCaprio.
Absolument, excellent. Les trois sont tous les trois de très bons films. Dans Interstellar, on a l'illustration du fait qu'on vieillit différemment si on voyage à la vitesse de la lumière ou si on reste sur Terre.
C'était Matthew McConaughey qui a fait l'expérience.
Absolument, et qui revient et qui voit ça. Lui n'a pas vieilli et sa fille est devenue une vieille dame. Donc c'est une expérience tout à fait fascinante. Et alors, dans le Tenet, qui est le troisième des films de Christopher Nolan que j'évoque dans le livre, on a justement deux séries de personnages. Une première série de personnages qui vit le temps, je dirais, fléché tel qu'on le connaît, et une deuxième série de personnages qui, eux, vivent avec un temps qui va exactement en sens inverse. Et ça donne des situations tout à fait intéressantes. D'ailleurs, il faut probablement regarder plusieurs fois le film Tenet
pour
bien comprendre et comprendre toutes les subtilités qu'il recèle. Est-ce qu'on sait remonter le temps ? Moi, je ne sais pas répondre à la question. Je n'ai pas vécu cette expérience.
Est-ce que c'est possible théoriquement ?
Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les expériences qui sont évoquées, y compris dans la littérature, par exemple Harry Potter, vous avez ce qu'on appelle les les trous de ver. Les trous de ver permettent de passer d'un point de l'espace-temps à un autre point de l'espace-temps ou d'un autre univers. Bon. Et donc ça, c'est assez théorique, mais s'ils existent, ces trous de ver, oui, on pourrait remonter le temps. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film Interstellar.
Oui, effectivement. Alors, dernière question, Bruno Angle, puisqu'elle vous tient à cœur et vous tâchez d'y répondre dans ce livre. Comment bien gérer son temps pour être le plus heureux possible? Comment vous résumeriez votre programme?
Alors, moi, je dirais qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est d'être clair sur les objectifs qu'on poursuit. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise utilisation du temps dans l'absolu. Je cite l'exemple d'un garçon qui était en prépa avec moi. Quand nous étions en prépa, nous avions exactement le même objectif qui était de rentrer dans une école d'ingénieurs. Bon. Et on a tous les deux atteint cet objectif. Puis après, lui, il a décidé de devenir moine. Et donc, il est moine. Et moi, j'ai décidé d'avoir une vie de père de famille et une vie dans l'entreprise. Et donc, évidemment, aujourd'hui, nos objectifs sont assez différents. Et l'utilisation optimale de notre temps à chacun, évidemment, est différente par rapport à ses objectifs. Donc, il faut être clair sur ses objectifs. Il n'y a pas de bons et de mauvais objectifs, mais il faut être clair sur ses objectifs. Et ensuite, il y a quelques outils que je décris dans le livre, notamment le plan de journée. Le plan de journée, c'est très différent, mais je laisserai les auditeurs le découvrir dans le livre plus en détail. C'est très différent d'une to-do list. Le plan de journée, c'est vraiment de visualiser pour la journée du lendemain, les réunions qu'on va avoir, mais pas simplement les réunions qu'on va avoir, et voir comment on peut utiliser les espaces temps entre ces réunions pour passer des coups de fil, pour envoyer des mails, envoyer des textos. Et c'est important de le faire. Pourquoi ? Parce que si vous n'arrivez pas à le visualiser de façon théorique, il n'y a absolument aucune chance que ça puisse marcher dans la vraie vie. Donc c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour bien utiliser son temps.
Merci Bruno Angle. Votre livre s'intitule « De temps en temps » et il est paru aux éditions du Cerf.
Merci beaucoup. Europe 1.